Assurance Mixte, protégez celles et ceux qui vous sont chers grâce à Sunwa Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. 1er septembre 2017, 12 février 2018. Plus de 6 mois ont passé depuis la mobilisation au moment de la rentrée des classes. Mobilisation de parents d'élèves et d'enseignants devant le tribunal administratif à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, ce département réputé comme le plus pauvre de France. Leur objectif, c'était alerter l'opinion à propos du manque criant de médecins scolaires. En 2006, on en comptait 1400 sur l'ensemble du territoire français. 10 ans plus tard, ils ne sont plus que 1000. Pénurie nationale qui masque une situation contrastée au niveau des régions. La Seine-Saint-Denis, justement, est un territoire particulièrement sinistré, avec de graves conséquences pour la santé des enfants. Santé scolaire en Seine-Saint-Denis, c'est un reportage signé Juliette Jacquemin. Bonjour Juliette Jacquemin.
Bonjour Caroline.
C'est donc dans des écoles, des collèges de Seine-Saint-Denis que vous vous êtes rendue, département où la pénurie de médecins est criante.
Oui, à la dernière rentrée, il n'y avait que 29 médecins scolaires sur l'ensemble du département. Autrement dit, un médecin devait gérer 12 000 élèves. C'est plus du double de ce que recommande l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors forcément, pour les médecins qui restent, eh bien la charge de travail est énorme. Je l'ai vérifié en rencontrant le docteur Chantal Gignoux. C'est le médecin scolaire de Noisy-le-Grand, une ville qui compte pas moins de 41 écoles, 6 collèges et 3 lycées, tous à la charge du docteur Gignoux. Alors pour essayer de répondre à toutes les attentes, elle visite environ 3 établissements par jour. Ce matin, c'est au collège Jacques Prévert qu'elle se trouvait.
Alors là, la première famille n'est pas venue. C'était un élève très absentiste.
Il est 9h du matin, le docteur Gignoux commence ses consultations. Dans chaque établissement scolaire, elle a des locaux à sa disposition. Cette fois-ci, dans le collège Jacques Prévert, ce sont 2 salles. Une salle plutôt dévolue à l'infirmière, avec une toise, une balance, l'essentiel pour dépister la vue et l'audition. Et le docteur Gignoux, elle se trouve dans une autre salle juste à côté, une salle qui fait office à la fois de bureau, même si elle n'a pas accès à l'ordinateur, 2 salles de repos pour les élèves, et puis il y a aussi un lit sur lequel le docteur peut examiner ses patients.
Alors, je suis le docteur Chantal Gignoux. Je travaille comme médecin scolaire sur la ville de Noisy-le-Grand depuis une 20aine d'années à peu près.
Concrètement, au niveau de la charge de travail, par rapport à vos débuts, concrètement, qu'est-ce que ça a changé ?
Le changement important, avant, donc il y a 20 ans, on faisait beaucoup de visites médicales systématiques, c'est-à-dire qu'on voyait tous les enfants d'une classe d'âge. Peu à peu, alors, il y a eu en 2003, c'était la circulaire sur les projets d'accueil individualisés pour enfants malades chroniques, PAI. Donc là, on a adapté à l'école des traitements en cas d'urgence pour des enfants asthmatiques, pour des enfants épileptiques, drépanocytaires, toutes les pathologies chroniques qui peuvent avoir des complications pendant le temps scolaire et pour lesquels un traitement en urgence peut être mis en œuvre. C'était en 2003, donc il a fallu voir tous ces enfants-là. Ensuite, en 2005, il y a eu la loi sur le handicap qui a fait que donc chaque enfant avait droit à une inscription dans les écoles. Donc on a accueilli des enfants en petite section de maternelle qui arrivaient avec des profils d'enfants plutôt avec des troubles envahissants du développement. Et donc il a fallu organiser cet accueil, accompagner les familles vers les soins qui étaient adaptés. Donc ça, c'est la loi du handicap. Au milieu de tout ça et en parallèle, il y a eu aussi le développement des troubles spécifiques des apprentissages. Maintenant, on connaît très bien la dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc. Et du coup, là, depuis 2015, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le PAP et qui permet d'accompagner ces enfants-là de façon beaucoup plus spécifique sur ces troubles-là. Et là aussi, maintenant, il faut qu'il y ait l'aval du médecin scolaire pour que l'enfant puisse bénéficier de ce PAP. Voilà. Donc une charge encore supplémentaire. Il y a encore 2 ans, nous étions 2 médecins, on se partageait la ville, et il y a 20 ans, nous étions 4 médecins quand je suis arrivée sur ce secteur en Seine-Saint-Denis. Et peu à peu, à chaque départ en retraite, il n'y a pas eu de remplacement, et petit à petit, mon secteur, qui était d'un quart de la ville, s'est vu à chaque fois agrandi.
Du coup, c'est pas un peu frustrant d'avoir à la fois toutes ces circulaires qui se surajoutent, cette charge de travail, et en plus un secteur qui s'étend d'année en année?
Oui, c'est frustrant, parce que là, je vous ai parlé que de la chose médicale, c'est-à-dire de l'examen clinique, etc. Quand on devient médecin scolaire, on est aussi formé à faire de la santé publique, et donc ça veut dire être capable de faire des diagnostics de santé, de population, de proposer des choses plus adaptées à certaines populations. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé sur l'obésité dans le département du 93. Là, on remplissait un rôle qui était beaucoup plus large, à la fois de médecin dans la prise en charge individuelle, mais aussi collective, pour améliorer la santé des élèves qui sont scolarisés dans notre département. Voilà. Et petit à petit, ces tâches-là, elles sont devenues à la marge, puisqu'il y a tellement d'autres activités obligatoires, individuelles, pour lesquelles les enfants ont besoin de notre signature, de notre adhésion, de notre expertise, de notre accompagnement, pour lesquels on est sollicité pour éclaircir comment on accompagne ces élèves, comment on les aide aussi dans l'école, mais aussi nous avec les familles, comment on accompagne ces familles à avoir des soins ou des diagnostics adaptés à l'extérieur.
Normalement, c'est à la demande des parents, les aménagements.
Oui, mais tu sais bien qu'il y a plein de gamins, ils savent même pas qu'ils y ont droit. Alors eux, ils savent, parce qu'on leur a déjà fait, on l'avait déjà fait pour le brevet, machin. Mais ils ont un papier à remplir, quoi. Mais en même temps... Tu m'as dit que c'était pas sûr qu'ils aient compris que c'était pour les aménagements d'examen, la visite.
Non, non.
Ils comprenaient pas l'idée de la visite. Les familles qui ne connaissent pas les codes, qui savent pas comment rapidement avoir un rendez-vous, on les accompagne pour faire ce travail-là, pour téléphoner, pour faire un écrit qu'on leur retransmet pour s'assurer que le rendez-vous va bien être pris assez rapidement, suffisamment rapidement, parce qu'ils vont pas savoir soit s'exprimer dans la langue française ou suffisamment correctement comprendre. Et faire passer l'information comme quoi c'est essentiel qu'ils aient cette consultation avec tel médecin. Voilà, c'est connaître ses partenaires sur une ville, où est-ce qu'on peut avoir des soins gratuits, un dispensaire où il y a des vaccinations gratuites, les soins dentaires avec des dentistes qui acceptent de prendre des enfants, pas d'autres, certains qui acceptent les CMU, pas d'autres. On est là pour faciliter l'accès aux soins pour les familles qui n'ont pas ni les moyens forcément, ni les codes, ni la langue française qui leur permet d'accéder à des soins de base, quoi, en fait.
Alors, on vient de l'entendre, le rôle d'un médecin scolaire, ça ne se limite pas du tout à soigner les urgences. C'est un vrai trait d'union entre les élèves, les familles et le monde de la santé aussi. En d'autres termes, le médecin scolaire contribue à son échelle à réduire les inégalités sociales. Et pourtant, avec une telle charge de travail, eh bien, certaines fonctions importantes du médecin ne sont plus assurées. Docteur Chantal Gignoux.
Il y a 20 ans, on était très moteur sur la maltraitance. Dans une école, on constatait un enfant se plaignait d'avoir été frappé. Il y avait une marque qui apparaissait ou qui apparaissait pas d'ailleurs. Le directeur d'école appelait le médecin scolaire. Le médecin scolaire se déplaçait et faisait un constat de coup pour simplifier. Donc, il évaluait les traces de coups, il les écrivait dans un certificat médical. Dans la foulée, on convoquait la famille et on essayait tout de suite de discuter de ce qui s'était passé. Et en fonction de ce qu'on évaluait, on faisait un signalement. Voilà. Et petit à petit, les choses ont évolué. Et vu la difficulté qu'on a à consulter, à avoir des consultations, pour faire déplacer les familles, pour les voir et travailler sur des questions médicales pures, on a arrêté de se déplacer vers les écoles qui en avaient besoin. Et on a demandé à ce que les directeurs d'école ou les enseignants évaluaient la gravité des coups. Mais c'est pas un certificat médical. Quand il y avait un certificat médical du médecin, ça permettait peut-être plus facilement à la CRIP ou au juge à l'époque de dire bon bah oui là il y a des coups, c'est quand même décrit, il y a 2-3 lignes de coups, donc ça nécessite quand même qu'on aille y voir de plus près, quoi, qu'on lance peut-être plus rapidement quelque chose.
Le docteur Gignoux qui accueille Nathan, élève de 3e, il est venu accompagné de sa maman.
Vous allez vous laver les mains avant, je vous serre pas la main, parce que alors là t'as bien mis ton mouchoir comme ça, je vais pas te serrer la main. CE2, déjà en CE2, il était sous traitement par Italie 30, c'est ça.
Là, vous ne vous avez même pas rencontré,
d'ailleurs. Ah oui, on a eu le temps. Je ne vous ai pas rencontré, mais je l'avais vu une fois à l'infirmerie pendant que j'étais en consultation. À l'époque, il avait les cheveux longs.
Oui, je ne connaissais pas, je me disais comme ça.
Vous voyez le médecin scolaire depuis que Nathan est tout petit, en fait?
Oui, on le voit une fois par an, depuis qu'il est en maternelle. Ça déclenche beaucoup de choses, quand il y a des petits soucis ou... Elle nous dirige, ou ça va plus vite quand ça passe par le docteur. Mais après, comme elle a plusieurs établissements et que finalement, elle ne sait pas exactement qui c'est, en fait, hein, un an après, voilà, je crois que Nathan, Elle est obligée de reprendre ses notes et lire les choses. Quoi. Donc, voilà.
Et Juliette Jacquemin, il existe un indicateur justement qui permet de mesurer les conséquences de la pénurie de médecins scolaires.
Et oui, c'est la fameuse visite de la sixième année. C'est écrit dans les textes. Tout enfant a le droit de voir un médecin scolaire quand il est en grande section de maternelle. C'est une visite qui dure entre trois quarts d'heure et une heure et qui permet de vérifier que l'enfant n'a pas de problème de vue, d'audition ou encore de troubles du langage. C'est obligatoire, mais il y a tellement peu de médecins scolaires que de nombreux enfants ne passent tout simplement pas cette visite. D'après l'enquête du SNMS UNSA, le principal syndicat de médecins scolaires, l'an dernier, moins d'un quart des enfants avaient passé cette fameuse visite. Et encore, c'est une moyenne nationale. En Seine-Saint-Denis, la proportion tombe à un enfant sur 10. À Noisy-le-Grand, le docteur Gignoux n'a évidemment pas le temps de dépister tous les enfants. Alors elle se focalise sur les réseaux d'éducation prioritaires, les zones les moins favorisées. Ce sont les internes qu'elle a en stage qui assurent la visite. Et l'an dernier, elle a pu se rendre compte de l'ampleur du problème. Docteur Chantal Gignoux.
Il y avait une école qui n'avait pas pu bénéficier de ces visites médicales. Donc j'ai, avec ma secrétaire, elle m'a aidée sur la partie administrative et moi je faisais les biométries, c'est-à-dire je faisais la vue, l'audition des enfants. On fait ce fameux BSEDS, bilan standard de langage qui nous permet de voir si l'enfant il a des difficultés en phonologie. On regarde les vaccinations, le poids, la taille pour faire l'IMC, l'indice de masse corporelle pour éventuellement repérer des enfants qui seraient en surpoids, en obésité, les dents. Donc j'ai fait le minimum, hein, la base. Et donc les 50 enfants, les deux classes de grande section de cette école que j'ai vue l'année dernière, on a fait 25 avis vers le médecin traitant, vers l'ophtalmo, voilà, 25 en tout. C'est un enfant sur deux avait des besoins suite à cette consultation rapide. Donc effectivement, cette visite, elle est indispensable, parce que sinon on passe à côté de plein de choses. Mais pour les 1000 enfants de la ville de Noisy-le-Grand, avec les autres charges, les autres, toute la charge de travail que j'ai par ailleurs, c'est impossible. C'est absolument pas possible.
Un enfant sur deux a donc ensuite été orienté vers des médecins généralistes ou autres. C'est énorme. Et ça veut dire que pour toutes les classes où la visite n'est pas faite, eh bien, les problèmes de nombreux enfants ne sont tout simplement pas dépistés, avec forcément des conséquences sur la suite de la scolarité. C'est ce qui est arrivé aux enfants de ces deux mamans de Bagnolet, une commune de Seine-Saint-Denis aux portes de Paris.
Alors moi, c'est Madame Babou. Je suis parent d'élève à l'école élémentaire Henri Vallant. Et mon fils, il est au CE2. Donc, mon fils, il a rencontré des difficultés depuis le CP. Ça a commencé que Anis n'écoute pas, fait des bêtises. Il n'est pas concentré. Donc, j'ai pris rendez-vous avec psychologue, psychomotricienne. J'aurais bien aimé avoir le rendez-vous, le fameux rendez-vous à 6 ans, donc au CP. Peut-être qu'il aurait détecté des choses, qu'il a des difficultés.
Et vous avez été alertée par les maîtresses qui voyaient qu'il y avait un problème, mais elles savaient pas quel problème, évidemment. Finalement, c'était assez flou, puisque c'est pas leur rôle.
Bien sûr, parce que les maîtresses, elles m'ont dit, est-ce qu'il a un problème, je sais pas, de surdité, ou il entend pas bien? Est-ce qu'il a un problème de vue? Est-ce qu'il a un problème de concentration? Donc, il y avait beaucoup de choses. Donc, on est passé par plusieurs étapes. On a vu l'ophtalmo, après on a vu s'il entend bien, on a fait beaucoup de choses. S'il y avait le médecin, ben là, il va vraiment le diriger vers le spécialiste. Qu'il faut.
Madame, je tourne vers vous. Donc vous avez un fils qui, quand il avait 6 ans, aurait dû passer la visite obligatoire à 6 ans, une visite de dépistage, et il l'a pas fait.
Voilà. Donc moi, bonjour, je suis Madame Gorovenko. Mon fils aîné donc n'a pas passé sa visite médicale. On m'a jamais dit qu'il y avait un problème, donc c'est vrai que moi, avec mon travail, j'ai pas fait très attention. Je m'en suis aperçue qu'au bout d'un mois de la rentrée de septembre en CM2, la directrice me propose une orientation pour un enfant. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai commencé à bien vérifier sa lecture et je me suis aperçue qu'il savait pas lire.
Et ça, personne ne vous l'avait dit avant?
Ah non, personne. Sinon, je l'aurais fait suivre. Donc, j'ai trouvé une orthophoniste qui est très difficile à trouver. Hein. C'est des listes d'attente. Elle me l'a pris tout de suite et elle me l'a décelé. Dysorthographie, dyslexique. Ça veut dire que il a pas été suivi.
Ce qui, j'imagine, a forcément aggravé en fait d'année en année son problème.
Ça a aggravé. Il n'aime pas l'école. Ça marche pas. L'école, pour lui, c'est une horreur.
Et d'après vous, s'il avait été diagnostiqué à 6 ans?
Au moins, il aurait été suivi, il aurait fait plus de progrès. Là, il a été pris trop tard. À 10 ans, on peut pas, 10, 11 ans, c'est pas possible, quoi.
Et maintenant, donc, le problème, c'est le brevet?
Donc, le problème, c'est que, il est en troisième, donc il va passer le brevet. Et j'avais vu avec le chef d'établissement pour qu'il ait plus de temps par rapport aux autres, vu le problème qu'il a. Et du coup, j'ai pris rendez-vous, donc, début décembre avec le médecin scolaire de ma ville. Là, on est le 19 janvier. Donc, j'ai toujours pas de nouvelles. Le dossier, il est toujours pas validé, donc il a, malheureusement, il n'aura pas son temps pour son brevet, quoi. C'est une catastrophe pour moi, le brevet. Honnêtement, je pense pas qu'il va l'avoir, donc je lui ai expliqué que c'était pas grave, c'est pas de sa faute, de toute façon, c'est comme ça. Tout ça pour manque de médecin scolaire. Ce qui est pas de sa faute, hein. Le médecin scolaire qu'on a sur notre ville est à la retraite, elle a 72 ans, elle donne une journée de son temps, de sa retraite, pour venir sur notre ville, et elle peut rien faire d'autre, parce qu'après, il y a d'autres enfants, hein, c'est sur la ville. On est tout en attente de dossiers. Hein.
Et ce médecin scolaire qui continue à travailler malgré ses 72 ans, je l'ai rencontré.
Kyrette Lozier-Salvin, je suis médecin scolaire retraitée et vacataire pour une journée par semaine donc en Seine-Saint-Denis. Je suis aussi membre du bureau national du syndicat des médecins de l'éducation nationale, Force ouvrière.
Une journée par semaine, qu'est-ce que vous pouvez assurer? J'imagine que du coup la charge de travail doit être énorme.
Mais à vrai dire, je n'y arrive pas. J'ai beaucoup d'enfants qu'on me demande de voir et de plus en plus jeunes. C'est-à-dire, j'ai eu la plupart maintenant, c'est des élèves de maternelle parce que on voit aussi une augmentation des troubles du développement chez l'enfant.
Donc, on vous les envoie. Vous n'avez pas le temps pour l'instant de les voir, alors que j'imagine que la situation pour certains est assez urgente.
Bien, ce qui va poser problème après quand je vais les voir, donc je vais commencer là bientôt, c'est les temps d'attente dans les hôpitaux, parce que pour faire évaluer un trouble soupçonné du développement, c'est 6 mois, 1 an. Hein. Donc évidemment, ça perd une année, c'est catastrophique.
Où est-ce que vous recevez les parents maintenant? Parce que j'imagine qu'une journée par semaine, vous ne pouvez pas être sur tous les établissements.
Oui, c'est sûr, on ne peut pas courir partout. Hein. Donc, on les reçoit au centre administratif qui, en fait, se trouve dans une des écoles. Alors qu'autrefois, évidemment, on consultait dans chaque école, ce qui nous permettait d'avoir des contacts avec les enseignants, avec le directeur d'école. Et à ce moment-là, on était souvent interpellés par ces enseignants qui voulaient nous parler de tel ou tel élève. Et donc, on pouvait voir éventuellement. Évidemment, c'était aussi mieux pour les parents. Ils n'avaient pas à courir partout. Mais bon, c'était surtout bien pour faire notre travail correctement. Je me sens d'autant plus isolée qu'on a beaucoup moins de contact avec les infirmières avec lesquelles on doit travailler. Elles, plus souvent, elles sont dans les établissements. Donc, c'est elles aussi qui repèrent pour nous un certain nombre de choses. Mais on n'a même plus le temps de se rencontrer régulièrement, je vais dire. On va se voir une fois par trimestre, mais pas plus. Et donc, c'est évidemment difficile de travailler dans ces conditions. Parce que je dois dire que les conditions de travail sont dures, même matériellement. Hein. Actuellement, on est resté un mois sans imprimante. Avant, Bagnolet avait une secrétaire à temps complet. Et là, je n'ai plus qu'une secrétaire 2 jours par semaine. Donc elle-même, elle n'arrive pas à faire tout le travail.
Vous, en tant que médecin scolaire, est-ce que vous voyez encore du sens à ce que vous faites quand voilà, autant de missions ne peuvent plus être assurées?
Écoutez, on a un remords. Hein. On se dit, y a des tas de choses qui m'échappent. Mais enfin, ce que l'on fait, c'est extrêmement utile. Je prends par exemple les enfants qui ont des problèmes de dyslexie, de dyspraxie ou autre. Donc on voit avec l'école comment on peut faire des aménagements pour ces enfants-là. Bon, c'est très important. Dans ma pratique courante, je vois aussi des enfants dont je détecte une pathologie. Parce que ces enfants-là, les parents ne vont pas voir le médecin traitant régulièrement, ils ne voient aucun médecin spécialiste, ils vont simplement aux urgences quand l'enfant est malade. Mais je veux dire, il n'y a pas de vrai bilan. Donc nous, on détecte des choses que normalement devraient être vues par le médecin traitant. Par exemple, des malformations cardiaques chez des enfants qui venaient arrivé dans le pays, enfin qui n'était pas tout à fait primo-arrivant, mais qui n'avait jamais eu de consultation médicale. Donc on est vraiment utile dans ce qu'on arrive à faire. Mais maintenant, y a tellement de choses qu'on ne fait pas. Alors, on n'est pas évidemment comme un chirurgien ou je sais pas quoi qui pourrait pas opérer. On va pas dire qu'il y aurait mort d'enfant, mais quand même, on se demande comment ça se fera quand on sera plus là.
Ces questions que se pose Pierrette Clausier, médecin scolaire en Seine-Saint-Denis. Et on va se retrouver, hein, Juliette Jacquemin, après le point de l'actualité pour la seconde partie de votre reportage. Ce reportage, hein, qui demain sera suivi d'un débat en direct dans Priorité Santé, pour au-delà du constat, que nous puissions interroger les acteurs pour esquisser des solutions. Et on se retrouve dans 3 petites minutes.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, on parle du manque de médecins scolaires dans le département le plus pauvre de France. La Seine-Saint-Denis, on compte environ un médecin pour 12 000 élèves dans ce département. Sur l'ensemble de la France métropolitaine, la situation n'est pas beaucoup plus reluisante. Un médecin environ pour 10 000 élèves. Juliette Jacquemin, on continue avec vous. Vous avez signé ce reportage. Pourquoi les médecins scolaires sont-ils finalement si peu nombreux?
En fait, les postes de médecins scolaires, ils existent. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour les occuper. Au dernier concours de recrutement, les trois quarts des postes proposés n'ont pas été pourvus. Du coup, les territoires les moins attractifs sont les premiers à en souffrir, les campagnes ou la banlieue parisienne par exemple. Alors pourquoi les postes ne trouvent-ils pas preneurs? Eh bien principalement parce qu'un médecin scolaire est moins bien payé que les autres médecins. Un jeune qui débute gagne moins de 2000 euros par mois, c'est moins que lorsqu'il était interne de dernière année. J'ai demandé des précisions à Marianne Barré, secrétaire générale du principal syndicat de médecins scolaires, le SNMSU UNSA.
Concrètement, les médecins d'éducation nationale sont les médecins les plus mal payés de la fonction publique. C'est pas tant le salaire de début qui certes est relativement faible mais qui peut être comparable par exemple aux médecins inspecteurs de santé publique qui est surtout en cause, c'est surtout notre évolution de carrière. Après des années d'exercice comme médecin d'éducation nationale, un médecin titulaire quand il va partir à la retraite n'arrivera pas à progresser jusqu'en haut de notre échelle indiciaire. Et puis, il y a d'autres freins donc qui sont beaucoup moins importants que la revalorisation, à mon avis, financière, mais qui sont quand même importants pour des jeunes. Par exemple, il faut savoir qu'en tant que médecin d'éducation nationale, nous n'avons pas accès à une spécialisation actuellement. Depuis quelques années, tous les médecins sont spécialistes. Eh bien, nous, du fait de notre mode d'exercice, donc médecin d'éducation nationale, ça ne nous donne pas droit à l'accès à la spécialisation en médecine générale. Nous n'avons aucune spécialisation. Bon, c'est pas très attractif. Et puis, à mon avis, ce qui est également un frein maintenant et qu'il sera de plus en plus, c'est quand même l'état de notre service, de dégradation en termes de pénurie de personnel. Quand vous vous renseignez pour prendre un poste sur un département, que vous savez que vous allez avoir un secteur énorme avec énormément d'élèves en charge, que vous êtes quand même un jeune médecin de l'éducation nationale sans expérience, qu'en plus dans certains départements vous n'avez plus de médecin responsable départemental qui vous encadre et c'est normal quand vous êtes stagiaire, eh bien ce n'est pas très encourageant, ce n'est pas très porteur.
Donc pour vous, Marianne Barré, on l'entend, la vraie solution c'est d'augmenter, de revaloriser les salaires. Mais alors en attendant, pour pallier l'urgence, les autorités, elles évoquent des solutions alternatives. L'une d'elles, qui revient le plus souvent, c'est de faire passer certaines visites de dépistage par le médecin généraliste et plus par le médecin scolaire. Est-ce que ça vous paraît réaliste?
Alors la solution de faire appel, en particulier aux médecins traitants, ça a été évoqué encore tout à fait récemment, pour le bilan de 6 ans. Moi, je pense que ce n'est pas du tout réaliste. D'une part, parce que nous, quand on est médecin de l'éducation nationale, on a une formation. Par exemple, dans le bilan de 6 ans, et là, c'est inscrit dans la loi, il y a un bilan de langage qui est prévu dans ce bilan de 6 ans.
Le bilan de langage, ça consiste en quoi?
Ça permet de diagnostiquer des troubles qui, éventuellement, seront des troubles qui pourront favoriser, par exemple, une dyslexie. Et, eh bien, il faut une formation que n'ont pas les médecins, par exemple, généralistes, ils ne sont pas formés pour faire ce bilan de langage. Concrètement, si c'est un médecin généraliste qui fait ce bilan de 6 ans, le bilan de langage ne sera pas fait. L'autre problème des médecins généralistes, pour en avoir discuté avec des confrères, c'est qu'ils n'ont absolument pas le temps de faire ce bilan de 6 ans. Ce n'est pas réaliste. D'autant plus que je répète que là où on manque de médecins d'éducation nationale, on manque également de médecins généralistes. Donc à mon avis, c'est une fausse bonne solution.
Marianne Barré du principal syndicat de médecins scolaires, le SNMSU UNSA. Alors Juliette Jacquemin, faire appel à des médecins généralistes, ce serait une fausse bonne solution. Et à très court terme, comment combler le manque de médecins scolaires? Est-ce que d'autres solutions se profilent?
Oui, il y a d'autres idées dans les tuyaux. C'est ce que m'a confirmé notamment Lisa Tapia. Elle est représentante de parents d'élèves et l'UFCPE sur le secteur des Lilas, une ville qui n'a tout simplement plus du tout de médecins scolaires. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'elle interpelle le directeur académique pour trouver une solution sur sa ville.
Oui?
Oui, bonjour, je suis la journaliste de RFI.
Oui, bonjour, je suis Elsa Tapia. Montez au dernier étage, s'il vous plaît.
Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ?
Oui, et vous ?
Ça va, merci.
Je vous en prie.
Nous avons été reçus par le directeur académique au mois de novembre 2017 et au cours de ce rendez-vous, le directeur académique nous a fait savoir les plans d'action qu'il met en œuvre pour pallier à cette carence-là. Ces plans d'action sont quelque peu inquiétants dans le sens où finalement on essaye de se dire comment est-ce qu'on peut faire sans médecin. Et la réponse du directeur académique quand il nous reçoit en entretien, c'est de nous dire on va réussir à faire les PAI avec des infirmières, on va regarder pour hiérarchiser éventuellement des publics qui pourraient avoir plus ou moins besoin de visites médicales plutôt que de les faire pour tout le monde. Donc ça va, c'est comment on va hiérarchiser ce genre de choses, c'est quand même assez limite inquiétant. Et puis on va essayer de voir pour faire un groupe de réflexion et des travail au rectorat, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des médecins scolaires qui sont attirés par cette profession, cette spécialisation. Et puis sinon ils nous disent que ils vont clairement aller rechercher des médecins à la retraite, chercher des médecins généralistes qui sont prêts à faire des vacations ou des étudiants. Et nous, ces solutions-là ne nous conviennent pas du tout. Par exemple, il nous a annoncé qu'il recrutait un deuxième psychologue sur la circonscription.
Il propose de recruter un deuxième psychologue parce que c'est là que les besoins sont les plus urgents au niveau de la santé mentale.
Alors, il semblerait que ça soit leur façon à eux de pouvoir recréer ce lien, finalement, entre ce qui pourrait être le médical et le paramédical et le scolaire. Et on sait bien tous que le psychologue a son utilité, bien entendu, à l'école, mais qu'en aucun cas, il ne remplacera celui d'un médecin.
Vous vous mobilisez, hein, vous l'avez dit, vous essayez de voir des interlocuteurs, etc. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un se soucie du problème, en fait ?
Très sincèrement, quand on demande des rendez-vous à la direction académique, alors c'est vrai qu'en tant que fédération de parents d'élèves, FCPE, on se sent écouté. Après, là où effectivement c'est peut-être plus frustrant, c'est qu'on n'a pas forcément l'impression que ça pourrait déboucher sur des solutions. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils nous répondent « on met toute la volonté du monde, mais on n'y arrive pas ».
Une autre des solutions proposées n'est pas vue d'un très bon œil, l'idée de faire appel à des étudiants en médecine pour assurer les actions d'éducation à la santé, des actions à destination des classes pour sensibiliser les élèves aux dangers de la drogue ou à l'importance d'une bonne alimentation par exemple. Là, c'est le syndicat des infirmières scolaires, le SNIES, qui monte au créneau, comme l'explique Patricia Adam, secrétaire générale adjointe du SNIES.
Ça nous inquiète un petit peu parce que d'abord, on n'a pas vraiment été consulté sur la façon dont peuvent s'intégrer ses étudiants. Un projet, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça ponctuellement, c'est quelque chose qui est pensé, réfléchi avec l'ensemble de la communauté éducative et à partir d'un diagnostic de terrain. Quand on voit des enfants, nous rentrons un peu dans un logiciel toutes les données relatives aux consultations infirmières, aux dépistages, etc. Et à partir de là, on peut aussi voir que, par exemple, il y a besoin de faire une action sur le petit déjeuner où il y a des problèmes sur beaucoup d'enfants qui sont en surpoids, par exemple. Donc voilà, l'éducation à la santé, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça de là-haut et qu'on fait pendant une heure. L'éducation à la santé, ça doit partir vraiment d'un diagnostic de terrain, des besoins des enfants et des besoins de l'établissement. Et surtout, les actions doivent être inscrites dans la durée et être évaluées. Ça ne peut pas être une action ponctuelle comme ça, ça n'a pas de sens et ça n'aura pas d'impact, ça ne pourra pas engendrer des modifications de comportement. Quand on fait de la prévention avec les jeunes, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils aient identifié des personnes ressources. Or, si on parle du service sanitaire, c'est des étudiants, qui vont venir pendant une période donnée. Alors, je ne sais pas si c'est 3 mois d'affilée ou 6 mois ou si ça va être ponctuel ou autre, mais ils seront plus forcément là au moment où les élèves auront besoin de s'adresser à eux et donc ça nous inquiète.
Difficile avec les effectifs actuels de mettre en place plus d'actions d'éducation à la santé dans les établissements et pourtant ces actions, quand elles sont réalisées sur la durée, sont particulièrement importantes, surtout dans un département comme la Seine-Saint-Denis où les indicateurs de santé sont dans le rouge. En matière de nutrition par exemple, la Seine-Saint-Denis est le département d'Île-de-France qui compte le plus de cas de diabète sucré, de carie ou d'obésité infantile. En matière de sexualité aussi, c'est en Seine-Saint-Denis qu'on compte le plus de cas d'avortement
départements à l'échelle régionale. La nutrition, la sexualité, justement, des thèmes abordés de manière récurrente lors des actions de prévention dans les écoles et les collèges. Sauf que les médecins scolaires n'ont plus le temps de s'en occuper et que les infirmières scolaires, plus nombreuses, mais qui voient elles aussi leurs missions se multiplier, ont de moins en moins de temps pour le faire comme elles le voudraient. Mardi après-midi, je suis dans la rue Charles-Auray à Pantin, une rue qui compte un lycée, deux écoles primaires, dont l'école Charles-Auray. C'est là que je me rends pour y rencontrer Marie-Christine Dubois, l'infirmière scolaire. Elle a mis en place cette année plusieurs projets d'éducation à la santé et celui auquel je vais assister, elle l'a mis en place avec une enseignante de CP, après avoir discuté ensemble des besoins des élèves. Et cet après-midi, elle va parler nutrition aux élèves.
C'est un projet que nous avons alors au niveau des CP sur cette année. Donc là, on va travailler l'alimentation. Mais ensuite, on va parler l'hygiène corporelle, avec l'hygiène dentaire, bien sûr. On va parler du sommeil, on va parler de l'activité. On va faire vraiment un parcours de santé. Par rapport au projet qui nous concerne cet après-midi, on a déjà eu une première séance. Les élèves ont travaillé après avec leur institutrice. Et puis, là, on va reprendre un petit peu ce qu'ils ont fait. Et ensuite, on va expliquer à quoi servent les familles d'aliments.
Vous avez deux cartes. Vous devez prendre celle qui va dans la famille des fruits et légumes. Toi, tu as choisi olives et tu as laissé jambon. Ok. Et là, regardez ce qu'il a trouvé comme image. Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Dis-moi ce que c'était. De la confiture. Alors là, attention au piège. La confiture ne fait pas partie de la famille verte. Elle va faire partie de la famille rose des sucreries. Aïe, 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 au secours! Les sucreries servent à avoir des caries. C'est quoi les caries?
Non, j'en ai deux.
Chut, on s'écoute. Ah, si on mange une sucrerie, pour éviter d'avoir des caries, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben voilà, t'as trouvé. On va te brosser les dents. Ah.
Madame Attinguet, vous êtes la professeure des écoles de cette classe. Quel sens pour vous ça avait cette action d'éducation à la santé?
Le but pour moi, c'est qu'à un moment donné, on est là pour donner aux enfants une culture commune. Et autour de la santé, on n'a pas du tout tous les mêmes habitudes alimentaires chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est que en faisant des séances comme celle-ci en classe, ça permet d'homogénéiser les pratiques, que les enfants puissent prendre de la distance par rapport à comment ils mangent à la maison et ce que c'est qu'être en bonne santé. On a des enfants qui ont tous une éducation alimentaire, selon moi, sauf qu'elle n'est pas forcément commune. Je trouve que c'est très important de ne pas être critique sur la manière dont les enfants mangent, parce que c'est la manière dont les familles mangent. C'est juste d'amener les enfants à montrer qu'il y a d'autres manières de manger et qu'on peut en avoir une commune qui est basée sur la santé.
Marie-Christine Dubois, un projet comme ça sur un an, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Est-ce que vous avez le temps de faire ces projets en plus de toutes vos autres missions?
Justement, c'est ce qui manque souvent. Pas toujours le temps. Il pourrait y avoir plusieurs demandes, mais on peut pas. Là, vous voyez quand même sur l'année, c'est que 3 projets. Il y aurait peut-être plus de besoins. Mais déjà, ces 3 projets, ça demande de l'énergie, ça demande de la préparation, ça demande de la présence. Quand on aime, on ne compte pas.
Marie-Christine Dubois, infirmière scolaire à Pantin. Jacquemin, on a vu que l'éducation nationale cherchait des solutions à court ou long terme pour résoudre ce problème de manque de médecins scolaires. Mais est-ce que d'autres acteurs ne pourraient pas s'emparer de ces questions?
Eh bien, c'est ce que demandent certains parents d'élèves, notamment, qui estiment qu'au-delà de l'éducation nationale, c'est à l'État et aux collectivités territoriales de prendre leurs responsabilités. Car si les parents sont souvent démunis au sein de l'école, ils le sont aussi à l'extérieur. C'est le cas par exemple de Wilfried Cerisier. Il est papa d'un enfant handicapé en classe de seconde. Et il raconte son désarroi et son parcours du combattant auprès de la MDPH, la maison départementale pour personnes handicapées, pour que son enfant puisse avoir un parcours aménagé dans son lycée.
On doit se rendre à Bobigny. On doit avoir une file d'attente qui se réduit d'année en année.
mais il faut au moins attendre une heure. Et puis souvent on n'a pas de réponse positive, donc il faut attendre. Il y a un accès numérique qui est facilité, mais là aussi il y a beaucoup de familles en Seine-Saint-Denis qui ne maîtrisent pas l'accès au numérique, donc là encore ça pose problème, quoi. Il faudrait un accompagnement, une prévention plus soutenue en fait sur le terrain. Donc pour nous, il serait bien que la MDPH vienne en fait dans les différentes communes de Seine-Saint-Denis pour tenir des permanences, pour sensibiliser les familles, voire rentre au sein d'Éducation nationale.
En fait, ce que vous dites, c'est que c'est pas seulement un problème scolaire, c'est aussi un problème médical au sens large du terme.
Oui, tout à fait. Alors ce problème de la médecine scolaire, et pour nous la FCPO, révèle en fait un problème plus urbain, plus prégnant et plus global en fait. En Seine-Saint-Denis, on parle de déserts médicaux, et le problème n'est pas seulement en termes de moyens, mais aussi de coordination en fait de tous les services qui sont liés à la santé, santé scolaire, mais aussi santé plus largement, quoi. Donc là aussi, c'est à l'État de jouer, d'avoir un rôle de coordinateur en fait de toutes les actions qui sont menées de prévention, mais aussi d'actions de médecine scolaire et plus généralement de médecine de ville, quoi.
À l'évidence, en matière de médecine en Seine-Saint-Denis, oui, il y a une grande difficulté.
Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
Il y a des caractéristiques communes avec des territoires ruraux, hein, où la désertification médicale est très importante. Qu'il s'agisse des généralistes maintenant, mais aussi des spécialistes déjà depuis plusieurs années dans un certain nombre de villes qui ne sont plus présents. Et donc, bien évidemment, que du coup, la réponse publique, elle doit être à la hauteur. De très nombreuses villes de Seine-Saint-Denis ont, par exemple, depuis longtemps développé et même aujourd'hui encore moderniser, créer des centres municipaux de santé, et donc qui participent aujourd'hui grandement au fait que, en dépit de cette médecine libérale qui est en faiblesse en Seine-Saint-Denis, eh bien la réponse publique justement apporte des réponses. Et donc oui, en matière de santé scolaire aujourd'hui, là la situation est dramatique. Et d'ailleurs, compte tenu des débats qui peuvent exister aujourd'hui sur la réforme institutionnelle, sur la réforme territoriale, et compte tenu du rôle qui est celui des départements, de celui de la Seine-Saint-Denis en particulier, en matière de prévention, en matière de santé, en matière de protection maternelle et infantile. Moi, je suis disponible, je dis à l'État, mais l'affirmation de la compétence sanitaire et sociale des départements, ça peut passer par le fait de nous confier la responsabilité en matière de santé scolaire pour être plus efficace dans cette action.
Moi, hier, j'ai rencontré des parents d'élèves démunis, voilà, qui savent pas forcément vers qui se tourner. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à l'heure actuelle?
Ben justement, je pense que c'est aussi la grande dispersion de l'ensemble des acteurs. Et donc le fait de confier à une collectivité chef de file de l'action sociale cette question-là de la santé publique et de la conforter dans son rôle lié à la santé publique, je pense que ça aiderait aussi à non seulement donner de la lisibilité, mais à nous permettre de définir une grande politique publique liée aux spécificités de notre territoire.
Faire en sorte que les collectivités s'emparent de la question de la médecine scolaire, c'est effectivement une idée. En attendant, Stéphane Troussel l'assure, des initiatives sont prises pour que les plus jeunes du département aient un meilleur accès à la santé, malgré le manque de médecins. L'accent est mis sur la prévention. Cela fait 10 ans maintenant qu'existe le Tête-à-Tête, un espace jeune situé dans le grand centre commercial de Rosny-sous-Bois. Un espace voulu par le département pour aborder les grandes problématiques de l'adolescence, la contraception, les comportements à risque par exemple. Chaque année, le Tête-à-Tête accueille quelques 17 000 jeunes qui viennent seuls ou en groupe. Des groupes pour la plupart envoyés par les collèges et par les lycées. Assistantes sociales et éducateurs s'y côtoient, comme l'explique Evine Dorvillus, responsable du Tête-à-Tête.
Je vous fais une visite rapide du lieu. Donc en ce moment, nous avons l'exposition Voyage extraordinaire à travers les mille et une facettes de l'adolescence. L'idée, c'est d'avoir vraiment un lieu de référence où les informations sont validées, où on ne va pas être jugé, où on peut poser toutes les questions qu'on veut. Il n'y a pas de questions bêtes. Ici, il n'y a pas de questions bêtes, de manière anonyme et gratuite, puisque nous sommes un service public.
Vous pouvez nous décrire ce qu'on voit là?
Alors, ce sont des petites vitrines où on montre quelques ustensiles ou alors quelques moyens de consommation des produits psychoactifs. Non pas pour inciter à utiliser, mais pour dire, ben voilà, si tu vois ça, je pense notamment aux drogues illégales, si tu vois ça, sache que pour les drogues telles que la cocaïne, on va voir les ustensiles qui peuvent être utilisés par les consommateurs.
Par exemple, on voit une cuillère,
une seringue, un kit de shoot propre. Voilà. L'idée, c'est de partir de choses concrètes et ne pas, sous prétexte que c'est interdit, ne pas montrer.
Ici, c'est encadré. Donc s'ils voient les choses, on en discute. On ne les laisse pas repartir avec des questions. Si on voit qu'ils buguent sur quelque chose, on va l'expliquer, le décrypter et les laisser repartir avec une information claire et validée. Et ce n'est pas toujours des grands lecteurs. Donc du coup, on essaye de minimiser l'approche textuelle pour favoriser l'approche, on va dire, interactive.
Il y a un côté, c'est pas l'école, c'est votre chose.
Non, ici, quand on vient, c'est pas l'école, on prend pas de notes. Vous voyez, vous avez un groupe là qui est en train de faire la visite. Et voilà, on discute, on est assis, on discute, normal. On est en échange, on n'est pas à l'école.
Bon, il y a beaucoup de stands sur les conduites à risque, sur la sexualité. C'est aussi des thématiques qui sont beaucoup abordées dans les collèges, dans les lycées. Qu'est-ce que vous apportez par rapport à ces interventions des infirmières, par exemple, que tous les élèves sont censés avoir dans les collèges ou dans les lycées ?
Nous ne sommes pas professionnels de santé. Je pense que quand on a une infirmière scolaire qui fait une intervention sur tout ce qui concerne la contraception ou la sexualité, elle ne va pas aborder les choses de la même manière que nous, parce qu'elle, elle a une dimension santé derrière. Son objectif, c'est santé. Alors que nous, ça va être plus ma relation avec l'autre. Nous, on va plutôt être... Oui, mais comment tu négocies ton préservatif ? On est complémentaires, en fait. C'est pour ça que toutes ces approches, plus on peut diffuser de l'information par différents canaux, et plus l'information a des chances de passer. Donc, je trouve que c'est plutôt bénéfique pour les jeunes.
Vous êtes assistante sociale, ouais. C'est ça ? Ouais. Vous accompagnez des élèves ?
Oui, c'est une action collective qu'on mène sur le collège avec les infirmières.
Et alors, qu'est-ce que vous y trouvez au tête-à-tête, et qu'est-ce que les jeunes y trouvent, surtout ?
Bah, les choses sont abordées différemment et surtout c'est en dehors de l'établissement, donc ils sont plus à l'aise aussi pour parler, poser des questions, même vis-à-vis de nous. Hein. C'est plus spontané en fait, et puis c'est plus poussé, plus précis, chose qu'on ne peut pas faire nous dans les collèges.
Tête à tête, c'est une initiative du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, mais à d'autres échelles aussi, on se mobilise pour que les plus jeunes du département aient accès à la santé, Juliette.
À l'échelle locale, d'abord, de nombreuses villes de Seine-Saint-Denis ont fait de la santé une priorité, c'est ce qu'évoquait Stéphane Troussel. Et puis un autre acteur est aujourd'hui incontournable, c'est l'ARS, l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France. C'est au département de Seine-Saint-Denis qu'elle accorde le plus de dotations. Une partie non négligeable de ce budget, 14%, est consacrée aux actions de promotion à la santé à destination des établissements scolaires, avec des domaines ciblés en priorité, la nutrition, l'hygiène bucco-dentaire ou encore la question des violences et du harcèlement. Illustration avec le dispositif Sentinelle mis en place dans plusieurs collèges du département, dont le collège Jean Moulin à Montreuil, où je me suis rendue.
Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec monsieur Roux, le principal adjoint. Madame Jacquemin, journaliste.
Alors voilà, je m'appelle Guillaume Roux, je suis principal adjoint du collège Jean Moulin à Montreuil. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un dispositif qui existe depuis 3 ans au collège, le dispositif Sentinelle. C'est un dispositif qui est financé par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, et qui nous a été proposé par un médecin de la ville de Montreuil. Nous avons tout de suite été intéressés parce que son format est assez original, dans la mesure où les élèves sont formés avec les adultes. En fait, ils ont pu être préparés à intervenir auprès des élèves victimes de harcèlement à travers des jeux de rôle. Et il s'agissait d'apprendre... la manière dont on peut rassurer et aider les victimes de harcèlement à s'exprimer sur ce qu'ils vivent pour pouvoir le surmonter. Le rôle des sentinelles, c'est aussi un rôle d'information, passer dans les classes pour parler du harcèlement. Après, lorsqu'on entre dans la deuxième phase, celle du traitement du harcèlement, là, la chose revient aux adultes.
Moi, c'est Adam Benassou, en classe de 3e dans le collège Jean Moulin. Le principe d'être un sentinelle, c'est surtout de sensibiliser les personnes aux alentours et d'aller voir la victime. Soit ça peut être des amis ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, qui se fait constamment taper. Nous, on n'est pas là pour dire celui-là, c'est un harceleur, faut le punir et tout ça. Nous, on va plus aller voir la victime pour essayer d'être avec elle, pour pas qu'elle se sente seule surtout.
Donc aujourd'hui, on va intervenir auprès d'une classe de 5e parce qu'on nous a parlé de problèmes, de moqueries et d'insultes qui ont pu être faites.
Guillaume Roux, est-ce que c'est pas traditionnellement plutôt le rôle de l'infirmière scolaire, du médecin scolaire, d'intervenir sur les problématiques de harcèlement ?
L'infirmière, l'assistante sociale, tous ces partenaires-là sont indispensables pour traiter le harcèlement ou même plus largement pour traiter de la difficulté scolaire ou du mal-être à l'école. Et il me semble que le programme Sentinelle ne vient pas du tout prendre la place des autres acteurs, mais qu'il est là en complément, qu'il est là à l'échelle des élèves. Donc il ne s'agit pas du tout de donner des responsabilités qui seraient trop lourdes pour les élèves, mais par contre, de leur donner pleinement leur place dans la vie du collège et dans cette société dans laquelle on souhaite évoluer de la manière la plus juste possible.
Voilà un exemple d'une initiative financée par l'ARS qui insiste en expliquant que pour elle, la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire d'expérimentation. Depuis 2015, une convention a été signée entre l'agence et l'éducation nationale pour mettre en place des projets de ce type dans certains établissements scolaires du département. Une solution qui ne comble pas, bien sûr, la pénurie de médecins scolaires. La situation au niveau national a d'ailleurs été jugée inquiétante l'an dernier par l'Académie de médecine.
Merci Juliette Jacquemin. Et donc au-delà de ce constat, de ce reportage et des questions qu'il pose, nous vous proposons demain de prolonger, de poursuivre ce débat sur cette question de la santé scolaire en Seine-Saint-Denis avec des acteurs, élus, parents, organismes de santé autour de cette table en direct en studio avec nous. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétoussa Maquet, Ophélie Lassène et Didier Bleu, toujours à la réalisation. Et vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, sur le site bien sûr RFI.fr, la rubrique émission. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous recommande l'assurance mixte pour protéger celles et ceux qui vous sont chers. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.